Le trône nous ramène ce matin au 17 avril 1961. Ce jour-là, il y a donc 62 ans aujourd'hui, les États-Unis lancent une opération militaire qui va se terminer en fiasco complet. Elle aura d'importantes répercussions sur la guerre froide. Cet épisode est entré dans l'histoire, Pierre, sous le nom de la baie des cochons.
Il fait encore nuit ce 17 avril 1961 quand 1400 militants anticastristes débarquent sur deux plages de Cuba. Deux plages désertes autour de la baie des cochons. Précision, l'endroit n'a rien d'une porcherie à ciel ouvert. Los cochinos, les cochons, c'est ainsi que les Cubains appellent les petits poissons colorés qui abondent dans les eaux de la baie. Alors ceux qui débarquent ce jour-là ont été équipés et entraînés par les Américains. Leur objectif, c'est de renverser le gouvernement de Fidel Castro qui a pris le pouvoir à Cuba 2 ans plus tôt. Lui aussi l'avait fait par la guérilla, après avoir débarqué dans l'île avec moins de 100 compagnons. Alors pourquoi une brigade de 1400 personnes bien armées et soutenue par la plus puissante armée du monde ne parviendrait-elle pas à renverser à son tour le régime en place? C'est ce que croit fermement la CIA qui a orchestré l'opération, en secret bien sûr, puisqu'officiellement, les États-Unis n'ont rien à voir là-dedans.
Mais ils sont bel et bien à la manœuvre. L'opération avait été imaginée en 1960 quand Dwight Eisenhower était encore président. En janvier 1961, c'est John Fitzgerald Kennedy qui lui succède. Et c'est donc lui, Pierre, qui va autoriser cette opération.
Et pourtant, il n'est pas chaud. Hein. Oui, le régime communiste de Castro à 200 km de la Floride, c'est un vrai problème. Cependant, il ne veut pas inaugurer sa présidence par une action armée risquée. Mais le patron de la CIA, Alan Dulles, sait ce montrer persuasif. Ce sont des Cubains et non des Américains qui partent au combat, ils sont très motivés et les rapports de la CIA sont formels. Dès qu'ils auront établi une tête de pont dans la baie des cochons, eh bien le régime de Castro va vaciller. Et il faut se décider vite parce que l'Union soviétique s'apprête à livrer des avions, des MiG, à Cuba et ce renforcement aérien risquerait de tout compromettre. Malgré ses doutes, Kennedy donne donc son accord à l'opération qui sera, selon les termes des archives officielles américaines, « a perfect failure », un échec parfait. Le régime de Fidel Castro ne va pas s'effondrer, bien au contraire. Écoutez cet extrait d'un reportage de presse cubain sur l'événement. Il donne le ton de la détermination cubaine. C'est étonnant, hein?
Ouais, carrément.
En avant, héroïque, guerriero, faites la paix avec la guerre, avec les armes de la liberté. Ce sont les paroles à la gloire des soldats de Fidel Castro.
En 3 jours, l'affaire est pliée. Les combats ont fait en tout 300 morts, en cumulant les pertes des deux camps. Et la brigade anticastriste se rend à l'armée cubaine. Alors, vous avez parlé, Pierre, d'échec parfait pour les Américains. Quelles seront les conséquences d'un tel fiasco?
Eh bien, d'abord, un flagrant délit de mensonge. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Tente dans un premier temps de se défendre l'ambassadeur américain à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais l'évidence de l'implication est telle que le président Kennedy assumera très vite publiquement la responsabilité de l'échec. Un échec qui était aussi une incroyable humiliation pour l'Amérique. Et puis cet assaut raté sur Cuba va définitivement jeter l'île dans les bras de l'Union soviétique, trop heureuse en pleine guerre froide d'appuyer économiquement et militairement un pays qui va ainsi narguer la toute-puissante Amérique à moins de 200 km de ses côtes.
Ça, c'est pour l'aspect géopolitique, mais au plan intérieur, il y aura aussi des conséquences parce que cet échec est d'abord celui de la CIA.
Et oui, et furieux de s'être laissé entraîner dans un tel fiasco, Kennedy aurait déclaré être tenté, je le cite, de répandre les cendres de la CIA aux quatre vents. Il va seulement se contenter de limoger son directeur et son adjoint, mais la méfiance était installée durablement entre la célèbre agence de renseignement et le président américain. Ce n'est donc pas surprenant si certains ont vu l'ombre de la CIA lors de l'assassinat de Kennedy 2 ans plus tard, même si cela n'a absolument jamais été démontré. L'échec de la baie des cochons eut également une autre conséquence, parce qu'un courant radical au sein de l'armée américaine en a conclu que stratégiquement, pour mener une opération à l'étranger, il ne faut pas déléguer cela à autrui, ici en l'occurrence les Cubains anticastristes. Il faut au contraire y aller soi-même et s'engager totalement. C'est ce courant qui va entraîner les États-Unis dans l'engrenage fatal de la guerre du Vietnam, qui fut un second échec 10 ans plus tard, sans doute encore plus retentissant.
Et après ce fiasco de la baie des cochons, Cuba est resté sous la domination de Fidel Castro. 62 ans plus tard, le régime castriste est toujours au pouvoir. Est-ce toujours un souci pour l'Amérique, Pierre?
Alors, plus rien de comparable avec le début des années 60. Au débarquement raté de la baie des cochons va succéder la crise des missiles, où États-Unis États-Unis et Union soviétique se regardèrent dans le blanc des yeux et ce furent les soviétiques qui cédèrent parce qu'on a parlé à l'époque de possible guerre mondiale, le monde entier tremblait. Mais les relations entre Cuba et États-Unis sont restées compliquées. Mais depuis la chute de l'Union soviétique, les Américains n'ont plus ressenti le même danger. Mais voilà que ces derniers temps, le Kremlin mène une offensive de charme diplomatique envers Cuba, avec l'idée que ce qui les unit, c'est un ennemi commun, une île à moins de 200 km des États-Unis, alors que l'OTAN est plus que jamais aux frontières de la Russie. Vladimir Poutine doit se dire que ça peut toujours servir, comme quoi, depuis plus de 60 ans, Cuba reste comme un moyen de mesurer finalement l'intensité de la tension entre Russie et Américains.
Un grand merci pour cet œil dans le rétro.